Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Urban. Pierre, bonjour.
Bonjour. Tu veux qu'on la fasse?
Allô?
Oui, bonjour.
Ce qui m'intéressait dans le fait de te faire venir sur le podcast, c'était ton expérience d'abord pour commencer avec des clients internationaux, mais avant ça, vu que c'est la première fois que tu passes sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter en une minute?
Oui, bien sûr. Alors ben, moi, c'est Pierre Urban, je suis principalement historiquement un développeur full stack, et puis ensuite j'ai transitionné vers tout ce qui était product management, et maintenant ben, je suis principalement consultant pour tout ce qui est produit en fait.
Ok, et tu me disais que notamment quand tu étais dev, tu avais pu travailler avec des clients internationaux et ça m'intéressait vachement parce que je trouve qu'on ne tire pas forcément assez profit du fait qu'on soit sur un marché international et que ce soit super facile, facile de communiquer et de travailler à distance. Après, je pense qu'il y a d'autres barrières et c'est ça qui m'intéresse de voir avec toi. Déjà, c'était quel type de clients avec lesquels tu travaillais à l'international?
C'était principalement des startups. Alors après, il y en avait qui étaient avec des VC et il y en avait qui étaient juste bootstrapped.
Déjà, ça fait quelle différence pour toi dans le...
Pour moi, ceux qui sont avec des VC sont plus dans un mode politique. Et donc, les différents leviers que tu vas pouvoir avoir et utiliser, ça va pas être les mêmes que quand en fait c'est bootstrappé. Parce que quand c'est bootstrappé, en fait le business il est beaucoup plus orienté sur des KPI qui sont pragmatiques, on va dire, ou en tout cas raisonnables. Et quand c'est VC, des fois tu comprends pas trop les décisions, tu as une décision qui est on va pas faire de Ionic par exemple. Ah, bon, d'accord, pourquoi? Parce que on veut du natif. Mais d'accord, mais c'est quoi l'avantage du coup? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Et là, pas de réponse. Donc, en général, c'est très politisé en fait quand tu pars sur du VC.
Tu veux dire même au niveau de des décisions techniques, c'est ça?
Oui, bien sûr, technique. Puis alors, après, c'est encore plus aberrant sur tout ce qui est user experience, ouais.
Intéressant. Et du coup, comment tu les trouvais ces clients? C'est quoi les canaux? Comment tu es rentré en contact avec eux?
Il y a une partie qui venait de mon réseau. Et donc ça c'est principalement du bouche à oreille en fait. Et une autre partie, je dirais la moitié, qui venait de... Alors moi je faisais partie à l'époque d'un réseau qui s'appelle TopTal. Donc TopTal c'est comme Malt en France ou comme Upwork, mais en version élitiste. Où en gros, t'as que 3% des profils qui essayent de rentrer dans TopTal qui survivent. Et donc, du coup, ils se mettent vraiment en mode, nous, on match les meilleurs freelances au monde qui travaillent en remote avec les meilleurs clients au monde. Voilà.
Cool. Et ton expérience de... Tu trouves que leur promesse est tenue ou il y a un peu de bullshit là derrière?
Alors, c'était il y a combien de temps? Ça devait être il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Je pense que c'était il y a 5 ans. Et donc, du coup, ça a dû beaucoup changer depuis. Parce qu'à l'époque, ils faisaient que les développeurs. Et maintenant, je crois qu'ils font les product managers, les project managers, les designers. Je crois même qu'ils font la finance. Donc il y a de quoi faire. Je pense que...
Tu réponds pas à la question, mais c'est pas grave.
Non, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'en fait, il y a des personnes... Ça a évolué. Donc, de ce que c'était à l'époque et de ce que c'est maintenant, c'est compliqué de dire. Parce que de ce que c'est maintenant, ça ressemble plus du tout à ce que c'était à l'époque.
Ce que tu avais connu, ok.
Et par rapport à ta question à l'époque, oui, en tout cas, c'était le cas. C'est-à-dire que tu pouvais effectivement travailler avec les meilleures sociétés du monde. Et les personnes avec qui moi, je travaillais à l'époque étaient très douées.
Ok. Et du coup, j'imagine que tu communiquais en anglais avec eux?
Ah oui, c'est que de l'anglais.
Et à quel point est-ce que tu étais à l'aise avec cette langue? Est-ce que c'était une barrière? C'était un frein? Comment tu as fait pour te mettre au niveau?
Ah non, moi en fait, je suis bilingue, donc du coup, ça n'a jamais été un frein l'anglais, parce que c'est une langue que je maîtrise complètement. Alors évidemment, il y a des mots que je ne connais pas, tu vois, si tu me sors, mais même en français, tu vois, il y a des mots que je ne connais pas. mais c'est clair que ça n'a jamais été un frein pour moi, parce que j'ai toujours été à l'aise. Tu vois, une discussion qu'on a actuellement, je pourrais l'avoir en anglais sans aucun problème.
Comment tu as appris? C'est à l'école? Tes parents, t'as un des parents qui est anglophone? Comment?
Non, c'est principalement. Enfin, moi, j'ai fait le truc classique à l'école qui est LV1 en anglais. Classique. Voilà. Enfin, je veux dire, il y en a qui font allemand, mais moi, j'ai fait anglais. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait grandement changé la donne. Je pense que c'est plutôt le fait d'être vraiment en mode passionné par tout ce qui est tech et de vraiment lire et consommer énormément d'informations en anglais, en fait. Au bout d'un moment, ça te forme. Et puis après, c'est juste une rigueur. Par exemple, moi, j'ai fait Epitech. Et à Epitech, on apprend que l'anglais est essentiel. Et donc, moi, je suis promo 2011. Hein, donc, c'est plus le Epitech d'il y a maintenant. Encore une fois, ça a changé depuis. Je fais mon vieux papy. mais en tout cas, à l'époque, on avait ce qu'on appelait des SUSI. Et les SUSI, c'est en fait, tu dois être. T'es avec un natif qui est anglophone et qui parle avec toi autour de sujets de conversation. Et puis après, t'as le TOEIC que tu dois passer. Et puis tout est en anglais. Donc vraiment, t'es baigné là-dedans. Et moi, donc du coup, j'avais tout configuré. Par exemple, j'ai configuré mon système en anglais, mon téléphone en anglais, je regarde des séries en anglais, je vais voir les films en anglais, je les vois en sous-titres anglais. tout est anglais, quoi.
Ok, c'est cool. Merci pour partager ce retour d'expérience. Et si tu devais noter quelques éléments principaux, est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu as constaté des différences entre des clients français et des clients nord-américains ou des clients d'autres typologies? C'est quoi les différences principales que tu as pu constater?
La plus grosse différence, c'est, je dirais, pour ceux qui sont bootstrapped et non pas ceux qui sont VC-backed, parce que ceux qui sont avec des VC, en fait, c'est pas tellement leur argent et encore une fois, c'est très politisé, enfin, c'est particulier. Donc, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est un peu le même délire, je trouve, même s'il y a évidemment des différences. Mais pour moi, les différences plus flagrantes, elles se trouvent surtout chez ceux qui sont bootstrapped, c'est-à-dire qu'en France, un entrepreneur bootstrap, en fait, il a moins de moyens. Et donc, du coup, il est plus réservé sur sa façon de dépenser ses sous, en fait. Et le seul entrepreneur que j'ai trouvé en France, qui était un client, qui avait les mêmes dynamismes, en fait, que les mêmes réflexes que les Américains, c'était vraiment une exception, parce qu'en fait, il avait passé tout son temps à l'international. Et bon, il était français, mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas resté en France, en tout cas.
Et donc c'est... Ok, donc ce que tu dis, c'est que l'entrepreneur qui s'autofinance à l'international et notamment en Amérique du Nord, il aura plus de moyens à mettre sur la table qu'un entrepreneur français, c'est ça?
C'est ça, et donc du coup, en fait, il est beaucoup plus à l'aise à dépenser. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que j'encaissais avant de faire la prestation. Donc du coup, ça, c'est un truc que quand tu essaies de faire en France, en général, ça passe pas bien.
Ouais. C'est mal compris. Ouais.
Ce qui est une aberration, parce que quand tu regardes à côté, par exemple dans la construction, t'as toujours un avoir ou un apport. Tu vois, c'est quand même quelque chose dans les autres disciplines où c'est normal. Tu vois, par exemple, l'éducation, c'est pareil. Quand tu fais une école, en général, tu payes.
Ou une formation. Une formation, tu payes avant. C'est clair. Ouais.
Donc c'est assez étonnant, mais voilà, c'est des réflexes français, et puis c'est encore une fois, je pense, lié aux moyens, c'est-à-dire qu'un Américain, en général, quand il se bootstrap, il a peut-être 500 000 sur la table, quoi. C'est sûr que c'est pas pareil qu'un Français qui se lance avec 50 000, quoi.
Ouais, et encore, quand ils ont 50 000, c'est déjà pas mal, tu fais déjà pas mal de choses avec 50 000. Là où c'est plus gênant, c'est quand... Je vois des clients qui veulent concurrencer Google avec un budget de bootstrap de quelques milliers d'euros, quoi. Là, non, il va falloir appeler tes copains de la BPI ou des trucs comme ça, parce que ça va pas suffire.
Faire du love money.
Yes. Bah écoute, je te remercie. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où?
Ils peuvent venir sur LinkedIn, sur Pierre Urban et sur Facebook, Pierre Urban aussi.
Bah génial, je te remercie. Merci d'être venu.
Merci Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast et je t'invite à nous rejoindre dans la communauté des artisans développeurs sur artisandeveloppeur.fr À demain.